Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. Le remaniement ministériel a été au cœur d'une rencontre ce mardi des leaders de la coalition gouvernementale. La Commission européenne recommande à la République tchèque de reculer progressivement le départ à la retraite. Plusieurs centaines de Pragois ont manifesté ce mardi après-midi contre la démolition d'une maison historique de la place Saint-Séslas. Rencontre ce mardi des leaders des trois partis de la coalition gouvernementale portant sur un éventuel remaniement ministériel revendiqué par la plus petite formation de la coalition, les affaires publiques. Comme annoncé par ses représentants, le président Radek Yon et la vice-présidente Carolina Pick, à l'issue de la rencontre, les affaires publiques insistent sur la révocation d'ici le 30 juin des ministres Alexandre Vondra et Miroslav Kalousek qui seraient liés d'après les affaires publiques avec des scandales de corruption. Dans le cas contraire, le parti menace de quitter la coalition. La Commission européenne recommande à la République tchèque de reculer progressivement le départ à la retraite et d'adopter dans un court délai une stratégie anticorruption. Bruxelles a publié ce mardi une série de recommandations pour chacun des 27 États membres afin de les aider à renforcer leur politique économique et sociale de manière à atteindre les objectifs souhaités en matière de croissance, d'emploi et de finances publiques. En réagissant à ces recommandations, le Premier ministre tchèque Petr Nečas a déclaré que le rythme du recul du départ à la retraite était à son avis suffisamment rapide. D'après le présent projet de réforme des retraites, les trentagénaires actuels pourraient arrêter de travailler à l'âge de 68 ans et les enfants nés au cours de ces 10 dernières années partiraient à la retraite à 70 ans. Fin ce mardi des examens de baccalauréat pour quelques 99 000 élèves tchèques en terminale. Cette année, pour la première fois, ces épreuves ont été organisées au niveau national. Le projet dont le coût s'élève à 680 000 couronnes a été préparé pendant 14 ans. Les professeurs sont tout de même nombreux à critiquer l'inefficacité du système et sa mauvaise gestion. Les résultats des épreuves seront publiés avant le 16 juin prochain. Selon les premières estimations, un élève sur cinq aura échoué aux examens de baccalauréat national. C'est pour protester contre la démolition de la maison numéro 47 de la place Venceslas que le Club pour la Vieille Prague a organisé ce mardi après-midi une manifestation au pied du bâtiment en question. Elle a rassemblé plusieurs centaines de personnes. Une pétition contre la décision du ministre de la Culture, Jiří Besr, de démolir le bâtiment a déjà été signée par quelques 10 000 personnes. Les organisateurs des protestations estiment que cette décision pourrait servir de précédent et que la destruction de la maison de la place Venceslas risque de déclencher une série de démolitions d'autres édifices précieux dans le centre de Prague, inscrits sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO. Reprise du trafic après une semaine de grève dans les transports en commun à Ostrava en Moravie du Nord. Les conducteurs ont manifesté depuis le 1er juin pour une augmentation des salaires de 5%. Ce mardi, un compromis a été trouvé par les syndicats et la direction de la Société des transports d'Ostrava. En 2012, les salaires des conducteurs ainsi que des travailleurs techniques et administratifs de la société augmenteront de 5%. Parallèlement, les rémunérations des ouvriers de l'entreprise connaîtront une hausse de 6%. La grève va compliquer les déplacements en ville. La perte qu'elle a causée à la société des transports en commun s'élève à 70 millions de couronnes, presque 3 millions d'euros. Côté météo, mercredi, jour de la fête des Medart en République tchèque, le ciel sera nuageux à couvert avec des averses et des orages sur la majorité du territoire. Les températures seront comprises entre 22 et 26 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Rosinkova.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Magda Hrozinkova pour ce bulletin d'information. Ça y est, la décision a été prise. À partir du 1er janvier 2012, la fusion entre le Théâtre National et l'Opéra d'État sera effective. Vous le savez, cette décision suscite le mécontentement des employés de l'Opéra d'État qui s'opposent au projet du ministère de la Culture de transformation de toute la scène lyrique pragoise. Le festival Tanec Praha présente le meilleur de la danse contemporaine tchèque et internationale jusqu'à la fin juin, un rendez-vous qui dure depuis 23 ans en dépit des difficultés financières. Nous nous entretiendrons avec la fondatrice de ce festival. Bonne écoute de ce programme. Le ministre tchèque de la Culture, Jiří Besr, a présenté à la presse sa décision sur la transformation de l'Opéra d'État de Prague. D'après cette décision, l'opéra d'État sera associé au Théâtre National de Prague sur le plan économique et partiellement aussi au niveau artistique. L'intention du ministre est vivement contestée par l'ensemble des artistes de l'opéra d'État. Václav Richter.
L'opéra d'État de Prague est l'établissement lyrique installé dans le bâtiment construit en 1888 pour le nouveau théâtre allemand Neues Deutsches Theater. Son ambition, à la base, était de prolonger la glorieuse tradition de l'opéra allemand qui résidait dans cet édifice et comptait parmi ses artistes Gustav Mahler, Georg Sell, Alexander Zemlinsky, Richard Strauss et d'autres célébrités. En 1948, la troupe de ce théâtre a fusionné avec celle du Théâtre National de Prague et cette union a duré pendant 44 ans. L'établissement n'a recouvré son indépendance qu'en 1992, entrant alors dans la vie culturelle pragoise sous le nom d'opéra d'État. Cette situation ne satisfaisait pas cependant le ministre actuel de la Culture, qui a par conséquent décidé de réunifier dans une certaine mesure les deux institutions. Jiří Besser s'en est expliqué lundi lors d'une conférence de presse.
Nous procéderons à la fusion économique des deux établissements sous le numéro du registre du commerce du Théâtre National. Les comptabilités des deux institutions seront cependant séparées. Les corps des ballets des deux théâtres vont fusionner, ce qui permettra la création du meilleur ensemble de ballets du pays. Les orchestres et les chœurs des deux établissements resteront indépendants sur le plan logistique. Nous opérerons cependant la fusion des ensembles de solistes des deux institutions. La troupe dramatique du Théâtre National ne connaîtra aucun changement.
Les intentions du ministre provoquent depuis quelques mois une vive réprobation des artistes de l'opéra d'État qui ont protesté publiquement à plusieurs reprises contre la fusion de leur établissement avec le Théâtre National. Le projet est critiqué aussi par certains théâtrologues et hommes politiques. Ancien directeur de l'opéra d'État, Radim Dolanski, peut être considéré comme le porte-parole des opposants au projet. Il se déclare convaincu de l'utilité de l'existence de deux ensembles lyriques indépendants à Prague.
Chaque ensemble doit avoir sa propre direction, qui défendra les intérêts de son ensemble et qui cherchera à améliorer son niveau artistique. Je ne crois pas que la direction que propose le ministre après la fusion des deux troupes pourra apporter quelque chose de positif.
En revanche, le ministre a trouvé un partisan de sa conception en la personne du directeur actuel du Théâtre National, Andrzej Czerny, auquel il a confié aussi la direction de l'opéra d'État. À l'instar du ministre, Andrzej Czerny justifie la nouvelle conception par le souci d'améliorer le niveau artistique des deux institutions qui devraient, à son avis, unir leurs forces.
En Tchéquie, nous avons parfois tendance à lutter contre nous-mêmes et à rivaliser entre nous. La chose essentielle qui naîtra de cette union est la synergie, la jonction, la concentration des forces et la création d'une maison représentative d'opéra et de ballet qui pourra se mesurer à l'Europe, aux établissements du même genre de Vienne, Dresde, Barcelone, Francfort, etc. Je ne pense pas qu'il faille rivaliser entre nous.
Les mesures préparées par le ministre de la Culture devraient entrer en vigueur dès le début de l'année prochaine. Les programmes des deux théâtres pour la saison 2011-2012 seront conservés. Ce ne sera cependant que la première étape de la transformation des théâtres lyriques de Prague, transformation qui, selon Jiří Besser, ne s'achèvera qu'en 2015.
C'est déjà la 23e édition du festival Tanec Praha, Danse Prague, l'un des grands rendez-vous de la danse contemporaine en République tchèque. Du 6 au 29 juin, plusieurs scènes pragoises accueilleront des danseurs venus de République tchèque et de Slovaquie, mais aussi du Danemark, de Belgique ou encore du Royaume-Uni. Avec plus d'une vingtaine de chorégraphies réparties sur 3 semaines, ce festival propose des spectacles à destination de tous, mais aussi spécialement pour les enfants. Malgré les difficultés financières, le festival reste un moment phare de la danse contemporaine et sa directrice et fondatrice Ivona Kreutzmanova évoque les grands moments attendus de cette édition 2011. On l'écoute.
Oui, alors Sidi Larbi Cherkaoui, c'est une grande personnalité et je suis ravie de pouvoir l'inviter avec le spectacle qui est absolument spécial, exceptionnel pour moi. Il a travaillé en Chine avec des moines de Shaolin. Et il a créé le spectacle extraordinaire de dialogue parmi la culture chinoise, ou disons d'Asie, et la culture européenne, lui qui est d'origine maroc. Alors c'est vraiment très intéressant et bien attractif, bien sûr, ce spectacle.
Et puis c'est aussi un dialogue entre finalement les arts martiaux et la danse. C'est assez intéressant finalement comme pont qui est jeté entre ces deux techniques.
Absolument, ce sont les techniques totalement différentes, mais on voit qu'on peut créer la liaison très forte. Lui, il a réussi, il a promis de venir lui personnellement de danser ses trois spectacles à Prague le 25, 26 et 27 juin. Et puis, deux jours après, on invite Akram Khan avec Vertical Road. C'est le spectacle aussi très fort, d'autres niveaux, parce qu'il travaille avec le spiritualisme la philosophie de soufisme. C'est vraiment très fort au niveau de pansement des danseurs qui sont liés par une idée très forte, même s'ils sont des 3-4 continents différents. Alors, les deux spectacles, pour moi, c'est vraiment sont les grandes étoiles de notre festival.
Que ce soit pour Tanec Praha ou la plateforme de la danse tchèque, alors évidemment, on sait que ce type d'événement, c'est difficile de joindre un peu les deux bouts, que vous avez des problèmes financiers, mais que chaque année, vous êtes toujours là, et tant mieux. Cette année, on a en plus un gouvernement qui fait énormément de coupes budgétaires. Comment est-ce que vous vous en sortez pour cette année 2011?
Ce sera peut-être mieux de me demander après le festival. Parce qu'à ce moment, on est en train de balancer le budget, c'est-à-dire il faut vraiment trouver la solution pour le prix des billets, surtout pour les deux grandes étoiles, et voir comment on pourrait le faire. On prend beaucoup de risques, je dois dire, mais il faut le faire.
Mm-hmm. Vous avez toujours autant d'enthousiasme pour préparer ces événements?
Absolument.
Voilà, et à noter que si vous voulez avoir plus d'infos sur ce festival, c'est au www.tanecpraha.cz. Après ces faits et événements, on passe à la rubrique du mardi et entretien cette semaine dans Panorama avec Stanislas Pierret, directeur de l'Institut français de Bucarest, qui a commencé sa carrière diplomatique en Tchécoslovaquie dans les années 80. Un clairvoyant a profité d'un séjour dans la capitale roumaine pour l'interroger sur ses souvenirs de cette époque, notamment au contact de la dissidence tchécoslovaque.
Panorama.
Panorama.
Alors, Stanislas Pierret, vous êtes aujourd'hui directeur de l'Institut français de Bucarest, mais vous avez commencé votre carrière diplomatique en République tchèque ou même en Tchécoslovaquie à l'époque. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter votre parcours?
Oui, effectivement, j'ai été en poste à Prague la première fois juste avant la révolution de velours. C'était en 87, je faisais mon service militaire comme attaché culturel. Et en fait, je me suis beaucoup, beaucoup plu. À l'époque, je sortais d'études de philosophie et je ne savais pas très bien ce que je voulais faire. Et je me suis beaucoup plu, en fait, en République tchèque. J'ai beaucoup participé, je crois, à la vie culturelle. L'ambassadeur de l'époque, M. Humann, me demandait d'infiltrer les réseaux, mais d'avoir des contacts en fait avec la dissidence, avec les courants alternatifs, ce que je pouvais faire assez aisément puisque j'étais jeune, j'avais un passeport de service, j'étais pas vraiment complètement diplomate, donc j'avais un peu cette liberté et liberté dont j'ai pu profiter. Voilà, en 87-88, un an avant la révolution de velours, eh bien, j'ai multiplié les contacts un peu partout avec des intellectuels, certains membres de la charte, mais aussi beaucoup, beaucoup d'artistes. Je connaissais beaucoup, beaucoup d'artistes dans le domaine des arts plastiques, puisque c'était mon tropisme. Je suis un petit peu peintre aussi, donc j'avais une inclination pour les arts visuels, mais aussi j'avais des contacts avec avec les acteurs, avec les... Et c'est vrai que cette période était extrêmement riche. C'est-à-dire que cette période est vraiment de la fin des années 80. Une période, on ne savait pas ce qui se passerait, bien sûr. On savait pas que le... Mais la société civile était en train de bouger énormément, hein, dans tous les milieux. Dans tous les milieux, et les artistes et les étudiants étaient présents.
On connaît bien en République tchèque l'épisode du petit déjeuner historique avec François Mitterrand, mais c'est vrai qu'on ne sait pas forcément qu'il y avait une volonté de la diplomatie française de développer ce type de contact.
Non, c'est clair. Alors, d'abord, moi, j'étais pas seul. Hein. J'ai succédé à Xavier Galmiche, qui a fait beaucoup aussi pour le dialogue avec les dissidents, hein, qui occupait le même poste que moi. Mais il n'était pas le seul, il y avait aussi Valérie Levitte, il y avait Marianne Canavaggio, qui elle n'était pas diplomate, elle était professeure à l'école française de Prague, il y avait Sylvie Germain. Et tous ces gens, en fait, formaient un noyau dur de gens qui avaient des contacts vraiment assez proches avec les dissidents. D'ailleurs, Marianne Canavaggio vivait avec un dissident, un philosophe de surcroît. Donc j'étais pas seul. Hein. Et alors c'est vrai que quand François Mitterrand est venu en visite, il avait exigé de pouvoir voir Havel. Et donc ça a été un enjeu très important de son voyage.
Est-ce que vous avez participé à la...
Oui, j'ai participé. J'ai pas participé au petit déjeuner même, mais j'ai participé bien sûr à la préparation du petit déjeuner avec Stanislas Mrozek, qui était le premier secrétaire de croix à l'ambassade. C'est-à-dire qu'on avait passer des massages à Peter Hall avec à plusieurs participants du petit déjeuner. Voilà. Et ce petit déjeuner, effectivement, est resté dans la mémoire. Hein. Ouais.
C'est l'événement, on va dire.
Oui, c'est un événement. C'est un événement qui a marqué. Non, mais qui a marqué et qui montre que, en fait, la France, contrairement à ce qu'on dit, en fait, à cette époque, était quand même assez engagée. Dire bon, peut-être moins engagée que certaines chancelleries américaine, mais je pense qu'on a prouvé quand même certaines volontés de dialoguer avec les représentants de la société civile. À l'époque, c'était important. Voilà. Et c'est vrai que moi, je me suis beaucoup occupé au moment de l'association Yann Huss, qui était présidée par Jacques Derrida et par Jean-Pierre Vernant, et organiser par mon truchement l'accueil d'intellectuels français qui venaient en République tchèque donner des cours dans des séminaires privés chez Aida Hanek et chez d'autres aussi, chez les philosophes en fait, chez le frère de Václav Havel, et puis d'autres. Maintenant, je risquais pas grand chose. Donc je m'occupais de cette association, c'est-à-dire que j'étais un peu le point de contact en République tchèque. Donc j'accueillais ces intellectuels, la barrière venait dormir chez moi, et ensuite je l'emmenais dans les séminaires. Il y avait Pierre-Jean Labarrière, il y avait André Consiponville, il y avait toutes sortes de gens, Jean-Claude Esselin, beaucoup de gens de la revue Esprit. Vous voyez, un peu toute cette mouvance, en fait, venait aider les intellectuels tchèques qui n'avaient aucun contact avec les intellectuels occidentaux. Ça, c'était quelque chose d'assez important. La scène culturelle était assez vivace, mais les intellectuels tchèques étaient assez isolés. Hein. Contrairement aux intellectuels polonais qui avaient beaucoup, beaucoup de contacts avec l'étranger, notamment à travers les liens qu'ils avaient avec René Raymond et d'autres. L'Église aussi avait des contacts. Mais les intellectuels tchèques étaient un peu coupés du monde. Alors la branche anglaise de la CGNE était très active, la branche française, présidée par Derrida, était également active.
Comment ça se passait avec les autorités du régime, parce qu'ils savaient très bien ce qui se passait, comment il fallait négocier.
J'ai eu des difficultés à la frontière plusieurs fois, oui. Quand je venais avec des livres, parce que Pavel Tigride, qui s'occupait de Svetestvi, rue Croix des Petits Champs à Paris, me donnait des livres. J'avais à l'époque une vieille voiture, c'est une guimbarde de 504 Peugeot, et un gros coffre, et donc régulièrement je mettais les livres de Svetestvi, donc qui étaient des livres de samizdat en fait, hein, dans le coffre de la voiture, et j'emmenais les choses en, en République tchèque. Bon, j'ai eu des petites histoires là, mais bon, ça s'est toujours assez bien passé, voilà.
Effectivement, des associations, notamment la section de jazz que vous connaissez bien, m'ont raconté que, vous, que l'ambassade de France les avait aidés.
Je pense que Xavier aussi a beaucoup travaillé avec la section de jazz, si je me souviens bien. Hein. Mais effectivement, on a fourni pas mal de livres, on a pas mal de samizdat à cette section, et on a un peu soutenu aussi, après la révolution de velours, en fait, l'association, oui, en organisant quelques expositions, si je me souviens bien.
Et des concerts avant la révolution de velours. On m'a parlé de concerts organisés à l'Institut français, mais plus ou moins en catimini, mais tout se savait par le bouche à oreille. Est-ce que vous avez des souvenirs d'événements comme ça?
Oui, il y a des événements comme ça, mais bon, c'était pas très, c'est pas des événements très importants. Hein. Mais oui, effectivement, ça a sans doute donné un petit signal. Non, moi je me souviens de... J'étais peut-être un petit peu imprudent, hein, mais j'ai toujours voulu en fait rencontrer ces représentants de la société civile. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait, sans bien sûr aller jusqu'à imaginer que la révolution de velours était pour 89. Hein. Je pense que j'avais pas forcément toujours bien pesé les risques que j'encourais, qui étaient bon, qui n'étaient pas non plus énormes, mais on aurait pu être un peu emprisonné. Expulser du pays, etc., sans doute. Mais j'avais l'impression d'être tellement... de faire partie de coller à la réalité. Quoi. Il y avait vraiment un climat extrêmement... Alors, j'ai dû deux ou trois fois manifester. Et là, c'était un peu plus dur. Là, on a pris des coups de... Mais c'était... Voilà, manifester, vous savez, avec la STB qui avait l'énorme tuyau d'arrosage qui poussait... Voilà, par curiosité, j'étais descendu plusieurs fois dans la rue et donc j'ai dû manifester, ce qui n'était pas tout à fait dans mon rôle, il faut dire les choses. Mais là, j'ai dû avoir un peu peur une ou deux fois, oui. Mais sinon, j'avais conscience qu'il se passait quand même quelque chose.
Voilà, c'est avec ce panorama spécial entre Bucarest et Prague que s'achèvent ces émissions en français de Radio Prague. Vous pouvez évidemment les retrouver et les lire sur internet au www.radio.cz. Vous pouvez également les écouter en streaming, également en podcast. Merci de votre fidélité. À bientôt. Bon vent. Ahoy.